bonsoir, chers auditeurs. Quel bizarre plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Mes yeux se réhabituent lentement au soleil et ceux de Monsieur Diop également. Nous sommes là dans le studio pour vous pour le retour de ce Blabla Mix déconfiné et néanmoins en pleine forme, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va retrouver ce soir ? Eh bien, le temps qu'on se réhabitue un petit peu, on a ressorti des caveaux certaines interviews qu'on avait prévues pour vous avant que tout ne parte en live dans notre pays. Donc, on entendra une interview de Alistair, donc de la chaîne YouTube H Paradoxé, qui nous parle de certains problèmes auxquels sont confrontés les gens handicapés dans notre société. Nous allons bien sûr retrouver beaucoup de superbes musiques, une petite revue de presse très courte sur la situation du déconfinement à Rouen, peut-être des petites chroniques concoctées pendant mon absence, ça on vous en reparlera tout à l'heure. On va également parler de ce qui s'est passé quand on n'était pas là, plein de choses. Le monde est bizarre, chers amis, il s'est pas arrêté d'être bizarre pendant le confinement, puisqu'on va essayer de vous parler un peu d'autre chose que de coronavirus, bien sûr, dans les prochains jours. Et puis voilà, qui donc nous promet un bon blabla mix. Mais bien sûr, vous le savez, un blabla mix n'est pas vraiment un blabla mix sans celui dont vous êtes privé depuis beaucoup trop longtemps maintenant. J'ai nommé Monsieur Diop. Bonsoir, Monsieur Diop.
Oh, bah, tu me fais trop d'honneur, en tout cas. Merci, ça fait plaisir à entendre, ça fait plaisir d'être là dans le studio, surtout de retrouver des collègues. Dieu sait qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on allait tous se retrouver ici.
Oui, c'est vrai que ça fait bizarre de voir un autre être humain, mon cher Ousmane. À part, bien sûr, ma conjointe. Hein. Je ne veux pas dire que ce n'est pas un être humain. Je ne vais pas pouvoir rentrer chez moi. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir une personne qui n'est pas habituellement mon foyer, mon cher Ousmane.
Bien sûr. Donc voilà. Et puis, on est de retour toujours dans le joie et le plaisir et puis, de vous accompagner et de s'accompagner en même temps.
Superbe, superbe. Donc, pour commencer, tout en restant dans la thématique, on va s'écouter un morceau de musique que tout le monde connaît bien. C'est un classique. Il était là il y a longtemps. Vous l'avez peut-être même écouté pendant le confinement et son clip commence avec des médecins dans un hôpital, puisqu'on écoute The Real Slim Shady de Eminem sur le mix des cultures. May I have your attention please? May I have your attention please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here.
Act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door and started whooping her ass first than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said... Nothing, you idiots. Dr. Dre's dead. He's locked in my basement. Feminist women love Eminem.
Chicka, 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 Slim Shady. I'm sick of him. Look at him walking around, grabbing his you know what, flipping the you know who. Yeah, but he's so cute though.
Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips. My bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids and expect them not to know what a woman's clitoris. Is. Of course they're gonna know what intercourse is. By the time they hit fourth grade, they got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. But if we can hump dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women, wave your pantyhose, sing the chorus and it goes.
I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up.
Will Smith don't got a cuss in his raps to sell records. Well, I do, so fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me.
But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird?
Why? So you guys can just lie to get me here? So you can sit me here next to Britney Spears? Shit, Christina Aguilera better switch me chairs so I can sit next to Carson Daly and Fred Durst and hear him argue over who she gave head to first. Little bitch put me on blast on MTV.
Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim.
I said download her audio on MP3 and show the whole world how you gave him an MVD. I'm sick of you little girl and boy groups, all you do is annoy me. So I have been sitting here to destroy you. And there's a million of us just like me, who cuss like me, who just don't give a fuck like me, who dress like me, walk, talk, and act like me, and just might be the next best thing, but not quite me.
I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up.
I'm like a head trip to listen to, cause I'm only giving you things you joke about with your friends inside your living room. The only difference is I got the balls to say it in front of y'all, and I don't gotta be false or sugarcoated at all. I just get on a mic and spit it, and whether you like to admit it, I just shit it better than 90% of you rappers
talking. Then you wonder how can kids eat up these albums like volumes. It's funny, cause at the rate I'm going when I'm 30, I'll be the only person in a nursing home flirting. Pinching nurses' asses when I'm jacking off of Jergens and I'm jerking. But this whole bag of Viagra isn't working. And every single person is a Slim Shady lurking. He could be working at Burger King, spitting on your onion rings. Or in the parking lot, circling, screaming, I don't give a fuck. With his windows down and his system up. So will the real Shady please stand up and put one of those fingers on each hand up and be proud to be out of your mind and out of control. And one more time, loud as you can, how does it go?
I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up.
Guess it's a Slim Shady in all of us. Fuck it. Let's all stand up.
De 17h à 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
Profitons-en bien sûr pour saluer nos amis de Principe Actif qui nous écoutaient au 102.4 et au 95.9. Si la mémoire ne m'a pas quitté pendant ce confinement, on espère que tout se passe bien chez vous aussi, chers camarades du Sud, bien sûr. Et puis, on écoute donc, puisque la vie a continué, comme on va aimer à vous le répéter dans les prochains temps dans le Blabla Mix, on écoute donc des jeunes, des enfants, des jeunes qui nous ont préparé des petites poésies pendant cette période de confinement. En l'occurrence, c'est Monsieur Eliès qui nous a écrit « La boîte de mon frère, il est en CP à l'école des sapins.
Eliès, je suis en CP, la boîte de mon petit frère. Un dimanche après-midi, nous sommes allés nous promener dans la forêt avec papy, mamie et mon petit frère Louis. En marchant, Louis a trouvé une boîte blanche près d'un arbre. Elle était très jolie. En rentrant, il l'a posée sur la table dans sa chambre. Depuis, il ne se sépare plus de sa boîte. Dans sa boîte, il a mis une petite voiture rouge, 3 boutons dorés, une rose séchée, des petites graines et une plume blanche. Partout où il va, il emporte sa boîte. Mon petit frère n'est jamais parti de la maison sans sa boîte. Il adore sa boîte blanche.
HTR, le mix, HTR, le mix des cultures, 99.1.
Je crois que c'est le bon moment, justement, comme le petit frère de Eliès, pour se rappeler des choses qui ont vraiment de la valeur, mon cher Ousmane, puisque ce n'est pas toujours facile en ce moment, je crois que tu seras d'accord avec moi.
Bien sûr, on avait perdu un peu les notions de ces choses précieuses que nous avons tous les jours et que nous les avons pris pour acquis. Par exemple, là, actuellement, qu'est-ce que nous faisons que maintenant et que nous ne faisons pas avant parce que tout simplement, nous croyons que c'était démodé. C'était juste d'être gentil sans penser, sans arrière-pensée. Être gentil naturellement. Sans... Donc, on a vu pendant le confinement et que tout le monde donc, a découvert qu'il avait cette capacité qui ne coûte rien et que tu peux donner et que tu ne perds rien. Donc, il y a d'être... gentil, enfin généreux, disponible pour les autres et ceux qui en ont besoin. Donc on voit ça tous les jours à 20h à travers l'applaudissement à la fenêtre, voilà, au soutien de ces femmes, de ces hommes et ces femmes en tenue. Donc voilà, c'est leur moment, les hommes en tenue. Après les policiers pendant les attentats, donc les pompiers après Notre-Dame. Donc voilà, c'est leur tour et puis c'est pas juste pour la publicité parce que c'est nécessaire. Donc nous avons tous découvert ces choses intéressantes dans la vie. Donc voilà, le fait d'être disponible pour les autres parce que nous avons du temps et que nous ne savons pas quoi faire de ce temps et que d'autres en ont besoin. Il y en a qui sont occupés de garder les enfants des infirmiers et des infirmières. Donc voilà, c'était ces choses-là. Voilà, c'était juste un exemple, mais je sais que si vous cherchez, pas forcément, pas vous forcer, donc vous allez trouver d'autres choses aussi que, voilà, qui vont dans ce même sens-là. Voilà, la gentillesse ou d'être bon envers les autres, donc ce n'était pas seulement acquis, il faut le mettre en exercice. Donc voilà, c'est le confinement nous a appris ça, que voilà, qu'il faut, le mettre, faut l'activer. Voilà.
En espérant qu'on ne l'oublie pas, et puis surtout j'en profite pour annoncer à qui de droit qu'on espère que c'est la dernière fois, parce que ça commence à faire beaucoup quand même. Ça fait plaisir d'avoir des moments de solidarité, mais Notre-Dame de Paris est complètement détruite. On a des épidémies dignes de celles qu'on n'a pas vues depuis 100 ans. Il pleut, ça pue, c'est terrible, des incendies partout. Je ne sais pas ce qui se passe sur Terre en ce moment, mais c'est fort peu rassurant. Néanmoins, cette émission doit être l'émission de la positivité, chers auditeurs, et c'est donc pour ça que j'ai repéré dans la presse aujourd'hui un article qui m'a fait très plaisir et qui parle de ce qui se passe en ce moment. Puisque vous le savez peut-être, hein, je sais que c'est une info qui est un petit peu passée discrètement, mais aujourd'hui marque la fin du confinement en France. Donc nous sommes le 11 mai, ça fait assez plaisir tout de même de pouvoir ressortir sans devoir préparer des papiers à n'en plus finir, bien sûr. Et donc nos amis de Actu.fr qui sont sortis, qui ont regardé, qui ont surtout compilé tout un tas de témoignages qu'ils ont vus sur Internet, ont constaté que vous autres, chers citoyens rouennais, et je l'espère vous aussi, chers citoyens évroïciens, bien sûr, étiez plutôt responsables malgré ce déconfinement. On aurait pu craindre que le déconfinement marque une ruée vers le soleil, un peu. Les citoyens auraient pu sortir dans les rues, s'embrasser, danser comme on l'a vu parfois pendant cette période de confinement, faire n'importe quoi. Et apparemment, il semble que vous soyez plutôt responsable, puisque on respecte les distances de sécurité dans les rues, on ne sort pas forcément pour rien, et ça fait assez plaisir. Moi-même, j'ai pu constater en montant en bus ce matin qu'il n'y avait quasiment personne dans les bus. Il semblerait que les trains aujourd'hui à la gare de Rouen-Rive-Droite, ne soient remplis qu'à 20% de leur capacité. Les métros sont à moitié vides. Mystérieusement, d'ailleurs, moi qui m'attendais à ce que ce soit la première chose qui se passe, les distributeurs de liquide hydroalcoolique dans le métro n'ont pas été détruits, vandalisés ou dépouillés. Et d'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose, puisque quitte à être un petit peu pessimiste, la prudence est toujours de mise, bien sûr. Nous sommes certes déconfinés, mais le Covid-19 aussi, il est toujours là, il est dehors. Et il est déjà de retour à Wuhan et en Corée du Sud. Donc continuez à être prudents, chers auditeurs, ce qui, bien sûr, ne vous interdit pas de faire, comme on peut le voir actuellement dans toutes les rues de Rouen, la queue en respectant, bien sûr, les distances de sécurité devant chez vos coiffeurs et devant chez les esthéticiennes, hein, puisque il est peut-être temps d'en profiter pour prendre certaines décisions qu'on a oublié de prendre pendant le confinement. Et moi, j'ai pris beaucoup pendant le confinement, donc je pense que je vais peut-être aller faire la queue devant une salle de sport ou peut-être que Ousmane va pouvoir me coacher, puisque c'est un peu l'athlète de Radio HDR. En tout cas, si vous me croisez dans les rues, chers auditeurs, vous vous rendrez vite compte. Non, ce n'est pas un falafel, c'est bien votre serviteur, bien sûr. Bon, j'ai cru comprendre, mon cher Ousmane, pour une note un petit peu moins drôle, mais néanmoins qui parle toujours de choses petites et rondes comme moi, que c'est dramatique ce qui s'est passé dans le football français. La Ligue 1 a été arrêtée et apparemment, du coup, le PSG aurait gagné.
Bon, je taquine un peu les Parisiens, parce que je pense qu'ils ont fait ça juste pour nous faire chier, nous les Marseillais, non ? C'est une blague.
Un complot, tu penses ?
Non, j'utiliserai pas ce mot-là, mais je dirais seulement c'est pour nous faire chier, nous. Parce que dès que Paris va bien, nous, on n'est pas bien. Bon, donc voilà, c'est juste pour taquiner un peu nos amis les footballeurs, parce qu'en ce moment, c'est vraiment pas le fort, et puis je sais pas comment dire ça. J'en sais rien, tout. J'ai l'impression que le monde ou la vie se révèle tout à coup avec un nouveau visage et qu'on ne s'attendait pas, et puis on s'habitue le jour, ben on s'accroche là, on attend le lendemain, comment on va faire pour s'adapter à ça. Je ne savais pas que ça serait possible un jour, mais maintenant je sais que c'est fait, que c'est possible. Mais demain, il faut s'attendre à demain, à ce que ça ne soit pas aussi brutal et aussi rapide que ça. Mais oui, c'est vrai que je ne peux pas imaginer les dimanches après-midi, ça, Canal Football Club, bien sûr, parce que moi aussi, je suis un fanatique de ça. C'est loin de là de faire de la publicité, parce que tout simplement, ça occupe mes dimanches après-midi, et puis je prends tous les infos que je n'ai pas le temps dans la semaine, et puis voilà. Et donc, je ne sais pas comment remplacer ça, parce que remplacer le foot par la politique, c'est sûr qu'on va saigner du nez dès le premier quart d'heure. Et après, comment dire ça ? Donc, on a besoin de ça, mais... Paris, bah, je pense qu'on aurait dû tout simplement suspendre la saison et puis reprendre au normal. Et comme ça... Mais peut-être que ça va donner du piquant. Et puis que nous, les Marseillais, bah, la prochaine fois, on dira comment la loyale, mais dans le terrain, bah, venez, on va régler ça à la loyale. Mais, voilà. Mais je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup suivi. Je ne sais pas sur quelle base ils se sont basés pour donner le titre à Paris. Mais bon, voilà, c'est des choses du coronavirus. Et c'est des choses en 2020 où... Comme dans tous les domaines où il y a des surprises, où il y a des choses où on ne s'attend pas.
Alors du coup, quand est-ce que ça reprend cette histoire ? Ça reprend comme une saison normale l'année prochaine, quoi.
C'est juste une projection. Ça se trouve qu'au mois de décembre, ils diront que finalement, oui. On ne pourra pas.
C'est vrai, que c'est vrai que je suis peut-être un petit peu optimiste, bien sûr. Bon, écoutez, en attendant, on ne sait toujours pas d'où vient cette mystérieuse maladie. En tout cas, on n'en a pas d'idée précise. On a soupçonné un certain temps le pangolin. On a soupçonné également les chauves-souris. En tout cas, il y a une autre chose dont les citoyens de Rouen et de Paris même, donc j'imagine que les citoyens d'Évreux qui sont à mi-chemin ont dû le sentir aussi, bien sûr, et dont on ne connaît pas l'origine, c'est cette odeur étrange qu'il y a eu hier soir. Moi-même, j'étais sorti, je ne vais pas te le cacher, mon cher Ousmane, à minuit une, j'étais sorti pour sortir mes poubelles et pour regarder ce qui allait se passer dans les rues, parce que je m'attendais à ce que ce soit un déconfinement fou. En fait, non. Et il y avait une odeur un petit peu pestilentielle et dégoûtante qui régnait sur la ville. Alors, je me suis évidemment posé la question. Tout de suite, on pense à Lubrizol. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. On pense à tout un tas de choses. Il y a même eu des théories du complot sur Internet. J'ai vu des gens qui disaient que le gouvernement envoyait des gaz dans le ciel pour nous empêcher de sortir pendant le déconfinement. En fait, il semblerait que ce soit quelque chose de tout à fait normal, quoique assez rare, à cause des tempêtes et des orages. Alors, bon, je ne saurais pas vous l'expliquer précisément parce que moi, j'ai plus fait un bac littéraire que économique. Enfin, en plus, non, même pas, mais on se comprend. Mais donc, j'y comprends pas grand-chose, mais apparemment, ce serait dû à ça. Mon cher Ousmane, est-ce que tu as senti cette odeur et qu'est-ce que tu penses de l'explication qu'on nous a fournie ?
En vérité, non, j'ai pas senti ça, mais après hier, j'ai vu quand même l'orage et puis je peux comprendre que c'est normal que la terre reçoit de l'eau et qu'il y a des feuilles qui sont en décomposition sous la terre et puis voilà, enfin... Voilà, on peut comprendre, c'est tout à fait logique qu'après une telle déluge, que la Terre nous envoie quand même quelques gaz.
Oui, j'ai l'impression là que, parce qu'en ce moment, on vit un feuilleton, c'est pas possible, c'est une blague. J'ai l'impression qu'après le confinement, ce qu'on va vivre, c'est des tempêtes. J'ai l'impression qu'on est très très sur une ambiance tempête en ce moment. Il y a eu des effets sur les Hauts-de-Rouen, par exemple, des différentes tempêtes, moi qui étais confiné un petit peu en ville.
Oui, j'imagine que dans la forêt, il y a des arbres qui sont tombés, mais autour de nous, on a vu des arbres tomber ou des arbres complètement penchés. Après, c'est des choses que ceux qui font un peu de footing dans la forêt, ils ont l'habitude de voir. Ils voient aussi des employés de la mairie venir aussi les ranger ou les découper. Enfin, voilà, tous ces gens qui s'occupent de ça aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait partie de la vie d'ici.
Bon, écoutez, espérons en tout cas que ça en reste là. Hein. Espérons qu'il ne se passe pas de dinguerie à la Tour Eiffel ou je ne sais pas. En attendant, ce qui sera toujours là, même pour la fin du monde, chers amis, c'est la musique. Et on va donc écouter Barcaz avec Holy Ghost sur le mix des cultures.
Le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif, 99.1 et 102.4.
Désolé monsieur Barquez, mais il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte pour parler de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a manqué pendant cette quarantaine du coronavirus, cette quarantaine du Blabla Mix même, j'ai envie de dire, puisqu'ils ont refusé de nous enfermer dans les studios pour qu'on reste avec vous, chers auditeurs, et pourtant nous avons lutté, Ousmane et moi, vous vous en doutez bien sûr. Première chose dont j'ai envie de parler avec toi, mon cher Ousmane, c'est la disparition de Kim Jong-un. Est-ce que tu as entendu cette histoire ?
J'ai entendu, comment je me sentais ? Ben, j'étais content pour les habitants de son pays, bien sûr. C'était l'occasion pour eux de se libérer et qu'il fallait attendre ce virus. Et quand j'ai vu ces images, j'étais déçu. Donc du coup, voilà un type qui n'est pas mort du corona, où je ne suis pas content qu'il n'est pas mort.
Oui, bien, je pense, mon cher Ousmane, que tu ferais bien de ne pas partir à Pyongyang dans les prochains jours. Je pense que ça risquerait d'être
pas de mal. Je dis seulement ce que j'ai ressenti.
Effectivement, mais écoutez, si Monsieur Kim Jong-un nous écoute, eh bien, on le salue, puis on espère surtout qu'il ne va pas nous retrouver. Voilà. Est-ce que tu as entendu également, tu n'as pas dû entendre, évidemment, est-ce que tu as entendu également parler, mon cher Ousmane, quitte à être un petit peu inquiétant, cette nouvelle épidémie qu'on a vue apparaître à Hong Kong ces derniers jours?
Oui, j'ai entendu ça, mais j'ai entendu aussi celui de qui a un nom japonais aussi, je ne sais pas comment ça s'appelle.
Ah, la maladie de Kawasaki, oui.
Oui, donc faut savoir qu'en ce moment, je ne sais pas ce que le reste du monde a fait à l'Asie, mais l'Asie nous envoie soit des signaux d'amour. En tout cas, c'est fort.
Alors pour autant que je sache, sans être un expert en la matière, il faudra demander à Doc Mansour si on le revoit un de ces quatre. Il me semble que déjà la peste noire venait d'Asie, hein.
Donc, faut peut-être qu'il est temps d'aller discuter avec eux voir comment on peut partager cet amour sans que ça nous tue, quoi.
Alors, déjà, puisque aujourd'hui, cette émission est un peu sous le signe de YouTube, si je peux me permettre de parler un petit peu de ce que j'ai fait pendant cette quarantaine, puisque c'est principalement ce que j'ai fait, regarder des vidéos sur YouTube. Et le YouTuber Dirty Biology a fait une vidéo sur les causes et les pourquoi et les comment de ces multiples épidémies que nous avons ces dernières années, qui risquent apparemment, d'après lui, de se multiplier. Et c'est assez inquiétant. Apparemment, cette épidémie de coronavirus serait une première sur une longue série, en tout cas si on continue sur le chemin qu'on a emprunté vis-à-vis de l'élevage intensif et puis de la destruction des habitats naturels des animaux. Enfin bref, je ne veux pas vous faire flipper, mais habituez-vous peut-être à rester chez vous un certain temps, puisque on ne sait pas ce qui peut se passer ensuite. Hein, voilà. On salue bien sûr tous nos amis qui sont peut-être en ce moment confinés, qui s'ennuient chez eux parce qu'ils n'ont pas de raison spécifique de sortir et qu'ils préfèrent pas prendre de risques. Eh bien, bon courage à vous, on va vous faire des émissions qui vont vous aider à tenir. Chers amis, on espère bien, en tout cas, dans un registre tout à fait différent, mon cher Ousmane, est-ce que tu es sorti sans doute pour faire des courses pendant le confinement ? Est-ce que tu as vu beaucoup de gens sortir ou se rassembler, ne pas respecter ce confinement ?
Non, j'ai pas eu ce sentiment ici. Bon, personnellement, je sortais deux fois par semaine, soit pour aller courir parce qu'il en faut, il faut quand même maintenir le corps physiquement, et soit pour faire des courses. Après, comment dire ça, dans les centres commerciaux, non, les gens, ils sont plutôt... J'ai vu qu'il y avait du civisme, parce que les gens respectaient la queue, respectaient les distances, et aussi, j'ai vu même des gens arriver avec leurs propres gants propres pour pas toucher à tous les trucs qu'ils n'achèteront pas, parce qu'ils veulent juste tâter. Donc, non, j'ai vu ça, et ça, je pense que ça nous donne envie de croire à l'être humain, de dire, malgré plein de choses qu'on peut voir, parce que l'indiscipline et toutes ces choses-là, quand il s'agit des choses sérieuses, on est capable de s'autodiscipliner, parce que d'abord, c'est pour nous et aussi pour nos proches.
Ça fait du bien, en tout cas, d'avoir un petit peu de positivité, parce que moi-même, tu me connais, je suis plutôt négatif. En tout cas, il y a une nouvelle qui m'a un peu amusé, parce que dans le fond, c'est finalement pas si dangereux pour le reste de la population. J'ai vu que deux habitants de Rouen, vraisemblablement, ont été arrêtés récemment, puisqu'ils étaient en train de faire du paddle sur la Seine. Ils se déplaçaient donc sur des sortes de planches de surf en utilisant des bâtons. Il y aurait course-poursuite en paddle avec la police. Bref, une histoire de fou. On espère pour eux qu'ils sont sortis actuellement, que tout va bien. Et surtout, respectez le confinement, messieurs. Et puis, bien sûr, parlons-en, puisqu'on en parlait beaucoup avant que tout ça n'arrive. Et ça a même, du coup, complètement dérangé les choses. C'est cette histoire des municipales. Les municipales qui ont été reportées, pas reportées. On aurait bien aimé en parler, parce que quand même, quelle histoire que ces municipales. Est-ce que, à ton avis, ces municipales ont même provoquer une plus grande répartition de la maladie ? Est-ce qu'il aurait fallu repousser le premier tour ? Ou est-ce que, de toute façon, il fallait que ce soit fait et tu n'avais pas envie que je me retrouve obligé de refaire une série de « Ça vous concerne » ?
Après, je ne sais pas, Damien. Je pense qu'on peut dire tout ce qu'on veut. On peut dire que Macron, avec son équipe, ils auraient dû annuler ça ou ils auraient dû maintenir ça. Mais Ce qui est sûr, c'est que ça a servi à rien. C'est des efforts qui n'ont servi finalement à rien. Est-ce qu'on va maintenir le premier tour? J'en sais rien. Mais si c'est maintenu, je pense qu'on sera dans un... C'est comme jouer un match qui ne suit plus les mêmes règles d'une compétition. Parce que les prochaines élections, donc on aura quelque part dans nos têtes avec ce côté de confinement, et côté distance, et côté... Donc voilà, et alors qu'avant, il n'y avait pas ça. Donc je ne sais pas, mais c'est... Et après, je ne veux pas non plus critiquer Macron et son équipe. Je trouve qu'eux, ils font du boulot, du mieux que leurs... qui peuvent, même si on peut trouver aussi des choses à les critiquer, pourquoi pas.
Est-ce qu'on n'a pas tendance, sans vouloir proférer de sympathie particulière ou d'antipathie vis-à-vis de ce gouvernement, parce que ce n'est absolument pas mon rôle, et puis de toute façon, je ne me sens pas forcément impliqué dans ce type de ressentiment naturel, mais est-ce que ce n'est pas un peu facile d'être toujours assis chez nous et de dire « Ah bah ça, on aurait mieux fait, ça, il aurait fallu faire autrement ». Est-ce que finalement, ce n'est pas compliqué pour le gouvernement Macron en ce moment? Enfin, Philippe.
Oui, mais c'est compliqué. Après... Comment dire ça? Je sais pas, mais j'écoute beaucoup de savants. Et je me rappelle de cette phrase, j'ai oublié qui c'est qui a dit ça, qui dit le français c'est comme un italien, comment dire ça? Un italien qui râle, mais voilà, qui ne veut pas reconnaître qu'il a des choses. Après, je trouve qu'il y a un peu ça. C'est tellement facile de taper sur tout le monde. Et je pense qu'avec cette épidémie, personne ne pouvait dire tel jour ça va arriver et comment faut s'y prendre, parce que la dernière, ça date d'il y a 100 ans, et tous les gens qui avaient vécu ça, ils sont pas là. Et Macron, je le compare un peu à moi, nous sommes cette génération où, voilà, on s'en fout, on a l'habitude que la route soit goudronnée, et que les voitures soient fusées, et puis qu'est-ce que sont dans la foutre de l'air ou des choses, enfin, voilà. Après, dire à un type comme nous, bah, y aura un virus, tu vas pas sortir de chez toi, il va dire, mais t'es fou, on a des hôpitaux, on a des spécialistes. Voilà, on vit dans ce monde-là, on a du mal à prendre un coup, mais... C'est facile de les critiquer parce qu'on met n'importe qui à leur place. Bah, crois-moi, ils vont tanguer avant de prendre une décision parce qu'à tous les coups, bah, on aura des critiques. À tous les coups, on aura des... Bon. Après, je trouve que c'est facile. Là, on a besoin de créer de l'espoir, je pense. Et il fait ce qu'il peut. Et si c'est pas assez, c'est pas assez. Mais voilà, on doit essayer de garder le minimum d'espoir qu'on peut donner. Et puis voilà.
Le Blabla Mix, c'est une émission qui crée de l'espoir. Soyez sûr, en tout cas, que ça vous concerne, qui est une émission qui détruit tout espoir, ne manquera pas de se pencher sur la question, notamment des municipales. Il se passe des choses très intéressantes, notamment autour de Monsieur Louvel en ce moment. On ne manquera pas de parler du traitement de cette crise également, et on ne parlera pas, par contre, de Sibeth Ndiaye qui nous montre certaines techniques controversées pour se prémunir du virus à la télévision sur BFM TV. Je pense bien sûr aux cigarettes. Ne fumez pas, chers auditeurs, ça ne vaut pas la peine. Ne faites pas d'erreur. Sibeth Ndiaye, si vous m'écoutez, arrêtez, c'est pas bien de fumer, madame Sibeth Ndiaye. En attendant donc, je vous propose qu'on écoute notre interview qu'on vous avait prévue avec Alistair de la chaîne H Paradoxae sur YouTube, donc qui nous parlait des différents problèmes de handicap en France. Et vous allez voir que ça a plutôt tendance à faire disparaître tous mes espoirs qu'à m'en créer. On s'écoute ça tout de suite.
Bonjour Alistair, vous êtes jeune YouTuber, est-ce que je vous présente comme YouTuber? Est-ce que vous préférez un autre terme?
Moi, c'est un terme qui me va. Après, à côté de ça, je suis comédien aussi, mais c'est vrai qu'actuellement, mon activité principale, c'est d'être sur YouTube.
Donc moi, en l'occurrence, je vous ai découvert grâce à YouTube, donc sur votre chaîne H Paradoxae, si je prononce bien, ouais. Sur la vidéo « Faux handicapé » qui m'a pas mal interpellé. Comment aborder le sujet? Finalement, c'est un sujet que j'ignorais complètement avant. Vous êtes vous-même, vous souffrez de handicap?
Ouais, je suis handicapée, je suis autiste et j'ai une maladie chronique.
Et donc, face à cette situation dans laquelle vous êtes, et donc vous en avez parlé sur YouTube, des gens vous ont accusé de mentir sur votre handicap. Et vous, donc, vous citez l'exemple d'une actrice qui s'appelle Jamila Jamil, qui a souffert des mêmes accusations pour parler d'un problème qui apparemment est assez récurrent. C'est fréquent qu'on vous accuse de mentir sur votre handicap?
Ouais, alors bah du coup, pour moi, c'est particulièrement courant parce que du fait de mon travail, je suis assez visible en ligne. Il y a plein de gens que je connais pas du tout qui vont me voir sur mes vidéos, sur Internet, etc. Mais c'est vrai que même pour les gens qui sont pas particulièrement présents publiquement ou sur Internet, c'est quelque chose dont on est accusé au quotidien, que ce soit par les écoles, par les employeurs, par les familles, par les médecins même souvent. Donc ouais, c'est vraiment un problème que... Enfin, moi, je connais pas de personne handicapée à qui ce soit jamais arrivé, quoi.
J'espère ne pas être indiscret avec ma question, mais j'ai cru comprendre que ces douleurs chroniques dont vous souffrez vous posaient des soucis pour vous tenir debout. Est-ce qu'au quotidien, ouais, vous parvenez à marcher quand même, ou est-ce que dans votre vie quotidienne, vous préférez quand même être plutôt assis et immobile, entre guillemets?
Alors, c'est un truc que j'explique dans la vidéo aussi, justement, c'est que souvent les gens s'imaginent que le handicap, c'est ne pas pouvoir faire des choses, alors que très souvent, c'est avoir des difficultés ou avoir plus de douleur ou plus de fatigue quand on fait certaines choses. Donc, typiquement, pour moi, pour la marche, c'est vraiment, je peux marcher, je peux être debout. Je peux être assis, c'est quelque chose qui est possible, mais qui va être beaucoup plus fatigant pour moi que pour une personne qui n'est pas malade, et suivant les jours, qui va me causer beaucoup plus de douleur. Et du coup, c'est vrai que pour l'instant, je marche encore relativement chez moi, je marche, et des fois, il m'arrive de marcher dans la rue parce que j'ai pas d'autre choix, mais je devrais avoir un fauteuil roulant bientôt, parce que justement, ça va me permettre d'être plus autonome. Et oui, les gens s'imaginent, c'est aussi un truc dont je parle dans la vidéo, que si on a un fauteuil roulant, c'est qu'on ne peut pas du tout marcher, alors qu'en fait, la majorité d'entre nous pouvons marcher, mais le fait d'avoir un fauteuil va nous permettre d'être quand même plus autonome, parce qu'on peut marcher que sur des distances réduites, par exemple.
Oui, je connaissais un peu la thématique des handicaps invisibles, mais vous m'avez appris qu'il existait même le problème inverse. Il est possible, quand on est paraplégique, de marcher, et si on vous prend à marcher, les gens vont vous accuser de ne pas être paraplégique.
Ouais, voilà, c'est ça. En fait, la vérité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de handicap qui soit invisible, ni de handicap que tout le monde croit. C'est-à-dire que, quel que soit le handicap, il y a des choses qui sont plus visibles que d'autres. Évidemment, si on est dans un fauteuil, c'est très visible. Mais par exemple, être autiste, c'est pas écrit sur mon front. Mais la vérité, c'est que les gens voient bien que je bouge pas comme eux, que je parle pas comme eux, etc. Donc même s'ils vont pas forcément se dire tout de suite « Ah, cette personne, elle est autiste », ils vont voir qu'il y a quelque chose de différent quand même. Donc il n'y a pas vraiment de handicap qui soit complètement invisible. Et en même temps, il n'y a pas de handicap qui soit suffisamment visible pour que tout le monde le croie, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont aller chercher la petite bête et se dire « Ah oui, mais vraiment, est-ce que tu peux ne pas faire ça ?» ou « Je t'ai vu faire telle chose, je trouve que c'est louche, etc. » quoi.
En fait, finalement, tout ça pose la question générale des stéréotypes, j'imagine. En tant que personne atteinte d'autisme, j'imagine que vous devez avoir droit régulièrement aux stéréotypes de Rain Man, c'est-à-dire vous devez être un génie des maths, ce genre de choses.
Je trouve que dans l'autisme, alors c'est vrai sur pas mal de handicaps, mais sur l'autisme, on a vraiment ça où les gens s'imaginent vraiment que c'est tout ou rien, quoi. Ils ont soit l'image... que les personnes autistes, elles peuvent pas parler, elles communiquent pas, elles sont complètement dans leur monde, etc. Ce qui est faux pour la totalité d'entre nous, en fait. Et à l'inverse, le cliché que l'autiste, il est génial, il est savant, il sait plein de trucs, il est fort en maths, il est hyper intelligent, etc. Et ces deux images-là, elles sont fausses, en fait. Et du coup, dès qu'on va parler de nos difficultés, on va nous dire « Ah non, mais toi, t'as pas de difficultés parce que, tu sais, les autistes, ils sont géniaux, etc. » Et en même temps, dès qu'on va vouloir faire des choses, on va me dire « Ah non, mais tu peux pas parce que t'as telle difficulté, t'es un peu bizarre de telle manière, donc c'est pas possible. » Et du coup, en général, il y a un peu les clichés de « En même temps, vous êtes hyper fort, donc vous n'avez pas besoin d'aide » ou « Vous êtes complètement handicapé et incapable de communiquer, donc on veut pas de vous. » Et suivant la situation, on va choisir le cliché qui permet de t'exclure, quoi, en fait.
Ouais, en fait, les gens commettent l'erreur de croire qu'il existe une liste de choses. Par exemple, vous êtes autiste, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça, parce que vous êtes très fort pour ça. Et même pour les paraplégiques, alors qu'en fait, c'est complètement aberrant. J'imagine que ma question va paraître un peu naïve et évidente, mais j'admets moi-même que c'est un sujet que je connais finalement très très peu. Est-ce que c'est une véritable souffrance au quotidien aussi? Est-ce que c'est une souffrance qui s'ajoute même, on peut dire, aux souffrances liées à votre handicap? Le fait que des gens attendent de vous que vous correspondiez à un stéréotype de handicapé, entre guillemets?
Oui, clairement. Et puis, en fait, c'est le cas dans mon cas, mais je sais que c'est le vécu de beaucoup de personnes handicapées. Finalement, en fait, tout ce qui est les stéréotypes autour du handicap et le manque de bonne volonté, en fait, et juste d'efforts au niveau de la société pour inclure les personnes handicapées, c'est vraiment ça qui est le plus handicapant et qui est le plus douloureux. C'est pas les pathologies en soi ou les handicaps en soi. Moi, si j'étais juste autiste et que j'avais juste des douleurs chroniques, je m'en sortirais très bien. Mais en fait, ce qui est handicapant, c'est le fait de toujours devoir se justifier, le fait que si je peux sortir de chez moi en fauteuil, y a plein d'endroits auxquels j'ai pas accès parce qu'ils n'ont pas été faits de manière accessible, etc. Donc effectivement, il y a des choses qui sont douloureuses et compliquées en soi, auxquelles on peut pas grand-chose. J'ai mal, c'est comme ça. Mais il y a aussi tout un tas de choses qu'on peut faire pour améliorer le quotidien des personnes handicapées, pour les intégrer dans la société, pour nous rendre autonomes, et qui sont pas faites. Et en fait, je pense que c'est une erreur de penser que le plus gros problème des personnes handicapées, c'est leur maladie. En général, c'est plutôt les autres et l'environnement autour, la manière dont il est fait. Et c'est vrai que cet élément de toujours devoir prouver, toujours devoir se justifier et toujours être accusé de mentir ou de ne pas faire d'efforts ou d'être fainéant, etc., ça fait partie de cet environnement-là, quoi.
Vous l'expliquez bien dans la vidéo, je crois. Un passage, vous parlez du fait qu'une personne souffrant de handicap peut être capable de faire des choses dans des conditions terribles dans lesquelles un valide, entre guillemets, ce terme est un petit peu, comment dire, cavalier, mais enfin, bon, j'imagine que vous comprenez bien que je ne le dis pas en pensant à mal. Je veux dire, une personne souffrant d'un handicap peut être capable de faire des choses qu'un valide ne pourrait pas faire parce que, eh bien, elle connaît la souffrance depuis longtemps. Et donc, par exemple, vous citez l'exemple, je crois, on pourrait éventuellement donner une interview avec une fracture du bras sans trop de mal, alors que, par exemple, pour moi, dans mon cas, je pense que si j'avais une fracture du bras, je serais bien incapable de faire une interview de quelque sorte que ce soit.
Oui, bah effectivement, je donne cet exemple parce que c'est vraiment un truc qui est arrivé à Jamila Jamil qui avait dit « Ah oui, j'ai chuté dans telle émission, je sais plus quoi, et je m'étais cassé le coude. » Et des gens avaient dit « Ah oui, il y a cette interview qui est sortie, qui se passe quelques heures après l'événement et elle a l'air d'aller bien, elle sourit, etc. Donc, elle a dû mentir. » Je dis « Mais en fait, Jamila Jamil, c'est quelqu'un qui a une maladie chronique qui cause des douleurs chroniques. Elle a été diagnostiquée dès l'enfance, donc ça veut dire qu'elle a des douleurs chroniques depuis des dizaines d'années. Donc oui, elle est capable d'avoir mal et de faire deux choses en même temps. En fait, forcément que ça fait partie des compétences qu'elle a acquises. Après, que son anecdote, elle soit vraie ou elle soit fausse, en fait, moi, sur le fond, je m'en fiche. Mais en tout cas, je sais que l'argument de dire « elle sourit, donc c'est faux qu'elle a mal », il est complètement factice, en fait. Il n'a pas de sens dans ce contexte-là. »
Quelque part, je suis la preuve vivante qu'on peut avoir d'énormes lacunes sur le sujet du handicap en général, et on en apprend tous les jours. Mais une chose qui ne me serait jamais venue à l'esprit, c'est d'accuser une personne qui prétend être handicapée de ne pas être handicapée. Vous voyez ce que je veux dire? De l'accuser de mentir. Pourquoi est-ce que vous croyez que des gens font ça?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a d'une part une espèce de... les gens pensent qu'ils ont des connaissances, en fait, et c'est faux. Et du coup, forcément, ils se basent sur les connaissances qu'ils ont ou qu'ils pensent avoir pour essayer de comprendre le monde, ce qui, bon, je pense, est un peu normal, et on fait tous ça. Mais on a tellement peu accès à la parole des personnes handicapées, on a tellement peu d'informations sur le handicap, etc., qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte qu'en fait, ils y connaissent pas grand-chose. Et comme je le dis dans la vidéo, c'est pas grave de rien y connaître, mais si on pense qu'on connaît des choses, du coup, on va se dire, je peux me baser sur mes connaissances pour savoir si quelqu'un ment ou pas, alors qu'en fait, on n'a pas de connaissances, donc forcément, on se plante. Donc je pense que le premier problème, c'est ça. C'est qu'il y a tellement peu d'informations et de visibilité des personnes handicapées que les gens s'imaginent savoir des choses alors qu'en fait, ils n'ont que des clichés en tête. Et l'autre chose que je pense est importante et dont je parle un peu moins dans la vidéo, mais c'est que en fait, les personnes valides, donc les personnes qui ne sont pas handicapées, elles profitent matériellement du fait qu'on a des moins bonnes conditions de vie. C'est-à-dire que tout l'argent qui n'est pas dépensé dans les infrastructures pour les personnes handicapées, effectivement, il est quelque part chez les personnes valides. Que toutes les études qu'on nous refuse, tous les emplois qu'on nous refuse parce qu'on est handicapé, c'est des emplois et c'est des places d'études qui vont aux personnes valides. Et donc, je ne dis pas forcément que les personnes valides volontairement enfoncent les personnes handicapées pour prendre leur place, mais dans les faits, il y a quand même une hiérarchie dans la société où il y a des gens qui bénéficient de ces discriminations-là. Et du coup, c'est aussi une des raisons qui fait que ces discriminations, elles ne sont pas démontées et elles ne sont pas remises en cause.
Pardon, excusez-moi.
Non, j'allais juste dire aussi sur le fait qu'il y a des gens qui nous accusent de mentir, c'est pas juste des gens comme ça qu'on croise dans la rue ou dans notre famille ou au travail ou quoi. C'est aussi l'institution française, l'État français qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire que si on veut avoir des aménagements parce qu'on est handicapé à l'école ou au travail ou si on a besoin d'allocations, on doit le prouver. On doit remplir des dossiers. Le dossier de la MDPH pour demander des aménagements ou des allocations, il fait des dizaines de pages en fait. Donc à chaque fois qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin d'aménagement parce qu'on est handicapé, on doit le prouver. On ne part pas du principe que si quelqu'un dit « j'ai besoin d'aide », c'est qu'il a besoin d'aide. Juste, ça ne marche pas comme ça à un niveau individuel avec les gens, mais même à un niveau structurel dans la société, quoi.
J'imagine qu'être atteint de troubles autistiques ou être autiste et souffrir de douleurs chroniques, ou en l'occurrence comme Madame Jamil, avoir tout un tas de problèmes, je crois notamment des allergies sévères, tout ça, ça ne doit pas être des choses forcément très rigolotes tous les jours. Pourquoi est-ce que qu'est-ce que les gens pensent que vous essayez de faire en mentant sur votre handicap, en fait, dans leur vision des choses?
Je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'imaginent ce qu'eux, ils feraient en étant valides, avec ce que nous, on nous donne parce qu'on est handicapé. Typiquement, des gens qui pensent que si on a une allocation parce qu'on ne peut pas travailler, c'est cool parce que eux, s'ils travaillaient pas, ils seraient contents, ils auraient plus de temps libre. Sauf que nous, si on a des allocations parce qu'on ne peut pas travailler, c'est parce que le temps qu'on passe pas à travailler, on le passe à avoir des rendez-vous médicaux, à être coincé au lit, à être fatigué, à avoir mal, etc. Donc, je pense que les gens font un espèce de parallèle entre les aménagements et les aides qui nous sont données et leur situation à eux, alors que c'est pas comparable en fait. Ne pas travailler parce qu'on est malade, c'est pas pareil que ne pas travailler parce qu'on est en vacances. Et les gens ont du mal à faire cette distinction-là. Et je pense aussi qu'il y a juste tout un tas de préjugés et de, et d'idées qui sont fausses, en fait, sur les aides auxquelles on a droit en tant que personne handicapée. Enfin, moi, j'ai des fois des gens qui me disent « Ah oui, les personnes handicapées qui touchent la AAH, qui est donc l'allocation adulte handicapé qui est donnée aux personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler ou pas suffisamment pour avoir un salaire pour vivre. Oui, les gens qui touchent la AAH, c'est un peu... Enfin, c'est du confort, quoi. Du coup, c'est bon, vous n'avez pas besoin de travailler. Mais la AAH, c'est 900 euros. Vivre avec 900 euros, c'est pas confortable, c'est pas vrai. Et pour avoir la AAH, il faut remplir des dossiers qui font des dizaines de pages tous les deux ans et prouver qu'on est bien handicapé à la MDPH, etc. Donc non, c'est pas confortable. Et c'est toujours un peu bizarre quand les gens viennent me dire ça et qu'à côté, ils ont fait 5 ans d'études pour pouvoir avoir un salaire de 3 000, 4 000, 5 000 euros. J'ai envie de leur dire, mais si vous aviez vraiment envie de vivre avec 900 euros, vous n'auriez pas fait ces études-là et vous gagneriez le SMIC, puis c'est tout. Donc c'est bien la preuve que vous n'avez pas envie de vivre avec ces ressources-là, et pourtant vous m'accusez de moi mentir pour les avoir. Des ressources qui ne sont pas supérieures aux vôtres, en fait. Mais je ne sais pas, les gens sont jaloux quand même de choses dont ils n'ont même pas envie, en fait, au final.
Je sais que, malheureusement, c'est une thématique que vous connaissez aussi. Nous recevions il y a peu de temps une membre de l'association Endo France qui venait nous parler de l'endométriose et qui nous expliquait que pour une partie des personnes atteintes d'endométriose, c'était un peu double peine parce que les gens leur disaient « Arrête de faire ta chochotte, c'est bon, on a tout mal à cette période du mois, tu peux quand même faire ta vie, tout ça. » Est-ce qu'il n'y a pas cet effet-là aussi quand on souffre de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, un handicap invisible, de dire « Oh, t'es pas autiste, t'as qu'à, je sais pas, regarder un truc à la télé pour te faire. » Enfin, est-ce qu'il n'y a pas ce genre de commentaires aussi dans cette façon de nier votre handicap?
Je pense qu'effectivement, il y a des handicaps où c'est des choses que les gens valides ne vivent pas du tout. Typiquement, si tu es paralysé, on ne va pas te dire « Ah bah oui, moi des fois je suis un peu paralysé aussi, c'est pareil ». Donc il y a des handicaps où effectivement il y a des symptômes qui sont vraiment spécifiques, mais il y a beaucoup de handicaps où c'est le degré en fait de la difficulté qui est différente. Donc si par exemple tu dis « je supporte pas le bruit », les gens vont te dire « ah oui, bah moi aussi, s'il y a plein de bruit, au bout d'un moment je suis fatiguée, j'ai mal à la tête ». Mais ça n'a rien à voir, parce que quand je dis « moi je supporte pas le bruit », ça veut dire qu'en cours, pour juste supporter qu'il y ait des gens qui respirent et qui tapent sur des claviers à côté de moi, je suis obligée de porter des boules qui essent. Mais les gens se disent « ah oui, moi aussi le bruit c'est difficile », alors que leur difficulté est sans commune mesure avec celle des personnes handicapées, et du coup se rendent pas compte que ce dont on parle est différent en fait. Quand on dit « je supporte pas le bruit, j'ai du mal à rester debout », ça veut pas juste dire effectivement si je reste dans une salle de concert pendant 5 heures je vais être un peu fatiguée, ou si je reste debout pendant 6 heures d'affilée je vais avoir mal aux pieds, quoi. C'est vraiment pas la même dimension. Et pour l'endométriose, il y a vraiment ça, il y a « oui ben c'est normal d'avoir un peu mal », et genre « mais j'ai pas un peu mal en fait, je tombe dans les pommes ». Et en plus, pour l'endométriose, il y a aussi la couche supplémentaire du sexisme et de la misogynie, qui est le cas pour beaucoup de handicaps ou de maladies qui touchent particulièrement les femmes, où on va dire qu'en gros, les femmes, elles exagèrent tout, elles sont hystériques, quand elles disent qu'elles ont mal, bon, mais c'est parce que c'est des chochottes, en fait, elles ont un peu mal, mais c'est rien, si un homme avait mal comme ça, il ne se plaindrait pas. Donc c'est vrai que pour tous les handicaps qui touchent particulièrement les femmes, c'est le cas de l'endométriose et c'est le cas du syndrome d'Ehlers dans l'os, qui a Jamila Jamil, justement, dont je parlais dans la vidéo, il y a encore plus ces accusations de mentir et encore plus de recherche de retard dans la recherche médicale, parce qu'en fait, c'est des maladies qui intéressent beaucoup moins les médecins au final.
Là, je ne sais pas du tout où je vais avec cette question, mais je m'y risque parce que je pense que c'est intéressant. On parlait également, c'est un peu la thématique du moment. On parlait l'autre jour avec Madame Martin de l'association Menstruaction, excusez-moi. L'association Menstruaction, donc, qui se pose la question des problématiques de la précarité menstruelle, et qui nous expliquait que quand une députée en avait parlé dans l'Assemblée nationale, eh bien, des députés avaient ri. Est-ce que les problèmes des handicapés en règle générale, et notamment la reconnaissance du handicap aussi, ne seraient pas liés au fait qu'il n'y a, sauf erreur de ma part, aucun handicapé dans l'Assemblée nationale ?
Alors oui, moi c'est aussi quelque chose qui me choque pas mal. Typiquement en France actuellement, la secrétaire d'État chargée du handicap, il n'y a même plus de ministère, hein, ils l'ont supprimé. La secrétaire d'État chargée du handicap, c'est Sophie Cluzel, qui n'est pas handicapée, qui est la mère d'une fille handicapée. Et je me dis, mais on ferait jamais ça pour un autre ministère. Enfin, je veux dire, on mettrait pas un homme au ministère de l'égalité homme-femme. Enfin,
oui, mais c'est peut-être le père d'une fille.
En tout cas, je ne sais pas si on le ferait pas. Mais si on le ferait, c'est sûr qu'il y aurait des mouvements et des remous et des gens qui, je sais pas, qui manifesteraient dans la rue, qui seraient en train de lutter contre ça, quoi. Et ça ne choque personne que ce soit quelqu'un qui n'est pas handicapé, qui est chargé du secrétaire, qui est secrétaire d'État au handicap en France actuellement. Et aussi parce qu'en fait, les gens s'imaginent que les personnes handicapées, c'est un peu des sous-personnes, en fait, qu'on n'est pas autonome, qu'on n'a pas nos propres revendications, nos propres voix. Et du coup, souvent, quand on parle des personnes handicapées ou des droits des personnes handicapées, les personnes vers qui on se tourne, c'est les soignants, c'est les gens qui travaillent dans des institutions, c'est les familles beaucoup. Et en fait, c'est pas les familles qui sont handicapées, c'est les personnes handicapées. Mais comme on s'imagine que nous, bah, on est trop misérables et trop bêtes pour comprendre ce qui nous arrive, et ben du coup, c'est pas vers nous qu'on se tourne, c'est vers notre entourage. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait beaucoup de mal parce qu'en fait, bah, notre entourage ne vit pas ce qu'on vit. Et qu'il y a aussi beaucoup bah, de familles qui sont violentes avec les personnes handicapées à l'intérieur de leur famille et qui vont se poser en victime du handicap et dire en fait c'est surtout dur pour nous, c'est nous les premières victimes du handicap, etc. Donc c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui ralentit la progression de nos droits parce qu'on nous adresse tout simplement pas la parole en fait.
Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est souvent finalement dans les médias des proches de personnes handicapées plutôt que des personnes handicapées qu'on voit. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, alors là ça va être la question de la fin, j'en suis désolé si elle vous paraît violente, mais c'est la question qui me vient là, est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de rejet du handicap de par la société qui préfère cacher le problème sous le tapis comme quelque chose de honteux alors qu'en fait, bah non, on peut tous souffrir de handicap.
Bah si, si, très clairement. Alors du coup, le terme pour ça et pour d'autres choses, c'est le validisme justement. Donc c'est bah, comme le sexisme, comme le racisme, etc. C'est l'ensemble des discriminations et des violences qui sont faites aux personnes handicapées. Et c'est très certain que c'est quelque chose qui existe dans notre société. Et effectivement, il y a quelque chose qui, au niveau interpersonnel entre les gens et au niveau structurel, la manière dont fonctionne notre pays, notre société, nos lois, etc., est organisé pour exclure les personnes handicapées de la société. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes droits que les autres. On a des systèmes qui permettent bah, d'enfermer en fait tout simplement les personnes handicapées, même sous contrainte, même sans leur consentement, etc. Il y a tout un tas de choses qui sont légales et qui permettent d'exclure les personnes handicapées de la société, et aussi des choses qui ne sont pas légales mais qui sont tout à fait laissées faire, c'est encore un autre problème. Mais oui, clairement, notre société, la manière dont on fonctionne en tant que groupe d'êtres humains, a pour objectif d'exclure les personnes handicapées de la société. Ça, c'est quelque chose qui est visible et qui se vérifie, quoi.
Y a-t-il un point important que j'aurais oublié que vous souhaiteriez aborder, cher monsieur Alistair ?
Non, ça va, ça me paraît bien.
Merci beaucoup donc, pour ce temps que vous nous avez accordé pour essayer de mettre un petit peu de lumière sur ces problèmes trop souvent ignorés par nos confrères des grands médias. Malheureusement, nous sommes un petit média, néanmoins H Paradoxé ou H Paradoxaï, je ne sais pas comment ça se dit, est un bien plus grand média finalement que le Blabla Mix, puisque ça a beaucoup plus, je crois, de spectateurs que nous. C'est YouTube, finalement, tout le monde sous-estime aussi YouTube. Donc je vous invite à aller voir cette chaîne YouTube H Paradoxé, et notamment cette vidéo Faux Handicapé qui est très intéressante, quoique un peu triste finalement. Et puis je vous remercie encore une fois Alistair et je vous souhaite une bonne journée.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir.
Et oui, un sujet compliqué que j'abordais très fatigué vraisemblablement avant le début de ce confinement. Fort heureusement, j'ai pu me reposer. Il nous reste un petit peu de temps et monsieur Ousmane Mastolini, que c'était aujourd'hui l'anniversaire de la mort d'un grand monsieur de la musique, d'un certain monsieur Robert Marley, dit Bob Marley bien sûr. Alors je vous propose qu'on s'écoute un petit morceau de monsieur Robert Marley, donc pardon, Sun is Shining, sur le mix des cultures, donc pour célébrer l'anniversaire de sa mort.
Y'all go to interrompons pour quelques instants nos émissions afin de procéder à la synchronisation de nos réseaux.
Vous aimez mieux les disques ou la radio?
Tais-toi, je réfléchis.
Je vais mettre la radio.
Ok. Quel plaisir ça a été de vous retrouver, bien sûr, chers auditeurs, pour cette émission. Je serai de retour demain, monsieur Ousmane aussi. Le Blablamix reprend ses quartiers habituels. Ça a été un véritable plaisir de vous préparer cette émission, de préparer celle de demain, qui, je l'espère, sera un peu plus positive. On parlera certainement moins de cette saleté de Covid-19 dont on a déjà trop entendu parler, pour parler de choses positives, bien sûr. Mon cher Ousmane, c'était un plaisir de te retrouver à cette antenne. Et puis voilà, je vais tranquillement désinfecter le studio. Je vais remettre mon masque et partir tel un Batman confiné pour préparer l'émission de demain pour vous, chers auditeurs. Et on vous salue bien sûr avec effectivement, donc, monsieur Ousmane vous salue bien sûr en frappant sur le micro. Voilà qui va conclure notre émission.
C'est notre façon de dire au revoir aux auditeurs.
Salut Ousmane.